coup dur pour les agences de l'eau. Le 11 septembre dernier, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, leur annonçait une réduction des moyens dont elles disposent pour assurer leur mission. Les présidents des comités de bassin dénoncent une politique de l'eau sacrifiée sur l'autel des arbitrages budgétaires et une nouvelle ponction qui rendra à terme la situation intenable. Et le consommateur dans tout cela est-il réellement impacté? Pas directement, à court terme du moins, on va le voir, avec André Flageolet, président du comité de bassin eau Artois-Picardie, juste après une brève recontextualisation des missions des agences de l'eau. André Flageolet.
Alors, une agence de l'eau, c'est très simple. C'est d'abord un comité de bassin constitué de plusieurs collèges, les élus, les pouvoirs économiques, les pouvoirs associatifs et les consommateurs, et les représentants des différents services de l'État. Ceci donne naissance à un document qui s'appelle le SDAGE, Schéma directeur et d'aménagement des eaux, gestion des eaux, pardon. Et donc, ce schéma directeur est mis en application par l'agence de l'eau, qui, elle, est gérée par un conseil d'administration présidé par le préfet.
Très concrètement, elle fait quoi l'agence de l'eau? Elle lutte contre la pollution, elle modernise les réseaux, elle préserve, du moins elle a vocation à préserver les ressources et les milieux aquatiques, et elle met en place aussi un certain nombre d'actions et d'informations.
C'est tout cela, et c'est aussi un ensemble de responsabilités nouvelles données par la loi. En 1964, les agences de l'eau avaient essentiellement comme obligation et comme objectif la réduction des pollution issue du monde économique. Ensuite, ça a été la réduction des pollutions issues du monde domestique. Et aujourd'hui, nous avons en plus tout ce qui concerne la biodiversité, l'environnement et même le front de mer et la lutte contre les inondations. C'est dire l'importance des missions d'une part, mais l'importance des moyens humains et financiers que nous devons consacrer à ces missions.
Alors les moyens humains et surtout les moyens financiers, on va y revenir dans un tout petit instant. André Flageolet, d'abord un petit mot de ce que c'est ça qu'un comité de bassin. Vous êtes le président du comité de bassin au Artois-Picardie. C'est une instance délibérative. Qu'est-ce qu'elle fait?
Le comité de bassin se réunit régulièrement pour tracer les perspectives des lignes politiques nécessaires à la gestion de l'eau, de l'assainissement et à la reconquête environnementale. Ceci pour répondre aux directives européennes et également pour améliorer l'ensemble de l'environnement pour les particuliers et pour les collectivités. Nous recevons chaque année de la part du ministre une lettre de mission qui nous indique les orientations. Et nous devons décider dans ce cadre-là d'affecter des masses budgétaires et de chercher des opérateurs. Parmi les opérateurs, il y a les collectivités territoriales. Et là, tout cela va changer avec l'application de la loi NOTRe dès l'an 2020.
Alors la loi NOTRe, pardon, c'est la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Voilà, c'est ça. Donc nous passons l'eau et l'assainissement des syndicats ou des communes aux intercommunalités. Mais nous avons aussi à traiter avec les agriculteurs sur la reconquête environnementale. Nous avons à traiter avec les industriels sur les pollutions. Nous avons à traiter des pollutions historiques. Ce que l'on oublie souvent, celle du 19e siècle, là où on a mis la poussière sur le tapis. Et nous avons aussi à gérer les perspectives de l'Agence française pour la biodiversité ou de l'Office de la chasse et de la faune sauvage.
Alors, on parle souvent à propos des comités de bassin de petits parlements de l'eau. On parle de démocratie de l'eau. En quoi est-ce démocratique? En quoi moi, citoyen, je suis démocratiquement représenté dans ces comités de bassin?
Alors, les comités de bassin font l'objet d'élections tous les 3 ans pour ce qui concerne les présidents et vice-présidents.
La prochaine fin d'année?
Prochaine fin d'année. Et nous sommes ensuite avec des gens qui sont issus de la société civile. Le monde agricole, par exemple, qui n'est pas aussi uni qu'on le dit, envoie à la fois des représentants de l'agriculture traditionnelle et de l'agriculture biologique. Le monde industriel envoie des grands industriels, mais aussi des PME. Le monde associatif envoie des environnementalistes, des défenseurs du trait de côte ou des plages propres. Le monde des consommateurs, soit par l'intermédiaire de Que Choisir, soit par l'intermédiaire de la CLCE, envoie des représentants qui représentent les consommateurs, qui défendent le prix de l'eau, ou qui interdisent et essaient d'interdire les augmentations ou essaient d'orienter les dépenses.
Le prix de l'eau, justement, André Flageolet, il y a une part de ma facture d'eau qui va chez vous, si je puis dire. C'est une part de redevance qui est d'à peu près 18%.
Tout à fait.
Chez vous, à l'agence de l'eau, pardon.
L'agence de l'eau vit des redevances et elle ne vit que de cela. Elle a 7 redevances différentes. Nous en avons 6 exactement. La 7e, c'est ce qui concerne l'eau des montagnes. Donc, chez nous, ça n'existe pas. Et avec ces redevances, nous établissons des programmes à la fois annuels et pluriannuels. Votre facture d'eau est impactée par ses redevances. La facture agricole est impactée par ses redevances. La facture industrielle est impactée par une redevance également. Ce qui nous paraît anormal aujourd'hui à nous, président de comité de bassin, et nous l'avons dit lundi dernier à Nicolas Hulot, c'est qu'une partie de ces redevances est réorientée vers le budget général de l'État. C'est un détournement, nous semble-t-il, à la fois de procédure et même de finalité.
Alors remontons le temps, si vous voulez bien, André Flageolet, avant de parler justement de l'affectation de ces recettes de redevances. Remontons le temps. Vous y attendiez en août dernier un arbitrage budgétaire défavorable. Ça y est, là, le coup près est tombé. C'était, vous l'avez dit, le 11 septembre dernier. C'est Nicolas Hulot donc qui vous a annoncé cet arbitrage défavorable pour les agences de l'eau. Quels en sont les termes de cet arbitrage ?
D'abord, on va plafonner les recettes et si nous dépassons le plafond, l'État va ramasser le surplus.
C'est le plafond mordant sur précisément ce dont on était en train de parler, à savoir la redevance.
Tout à fait. Ce qui veut dire que nous avions globalement, dans le programme précédent, pour l'ensemble des 7 agences de l'eau, nous avions 13,4 milliards. Nous allons descendre à 12,5. Donc, les personnes vont avoir des redevances très légèrement minorées, et encore, c'est même pas sûr. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie, nous avons aussi à prendre en charge les 45 millions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc ça, ce n'était pas prévu au départ.
Ça, c'est un nouveau financement.
Un nouveau financement. Et nous devons financer également l'Agence française pour la biodiversité.
Que vous financiez déjà.
Qu'on finançait pour partie, mais là, on va financer totalement ces 130 millions. On ne dit pas que ces outils ne sont pas nécessaires. Nous disons simplement que nous sommes en train de déplacer de l'argent pour des missions essentielles vers d'autres missions essentielles qui relèvent d'une autre facturation ou qui relève d'une autre source de financement.
Et finalement, la redevance que moi je verse, elle n'a pas vocation à alimenter le budget des parcs nationaux ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
C'est ce que nous disons. Donc, ces opérateurs nouveaux, Agence française pour la biodiversité et opération et Office national de la chasse et de la faune sauvage, doivent recevoir ce qu'il faut financièrement pour pouvoir vivre et réaliser les missions pour lesquelles ils ont été créés, mais ils ne doivent pas les recevoir des agences. Ils doivent les recevoir ou du budget de l'État ou d'autres redevances. Il est question, le ministre nous a dit, on mettra peut-être une fiscalité nouvelle sur l'artificialisation des sols, mais il ne sait pas encore comment, pourquoi et quelle affectation, etc. Donc il y a un peu d'amateurisme également dans cette affaire. C'est pourquoi nous appelons tous les députés et tous les sénateurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, à dire attention, dans vos territoires, l'agence de l'eau est au quotidien présente pour une multitude de travaux. Il vous appartient d'exercer votre rôle de contrôle et de sanction quand vous n'êtes pas d'accord et de rétablir les contentieux des agences.
Quelles conséquences pour l'agence, pour les agences de l'eau, ce nouvel arbitrage budgétaire ?
Bien, si vous voulez, c'est la suite logique de ce qui se passait sous François Hollande, où Madame Le Royal n'a jamais réussi à limiter les prélèvements antérieurs. Nous rendions tous les ans et de l'argent et des personnels. Il faut savoir que l'agence de l'eau Artois-Picardie, sur la grande région des Hauts-de-France, fait l'ensemble de son travail avec 180 agents répartis à Douai, à Boulogne pour quelques-uns et à Amiens pour quelques autres. Mais nous n'avons plus la capacité de faire l'expertise, les recherches, les études nécessaires au bon fonctionnement de nos missions. Et aujourd'hui, on nous dit « mais il faut encore rendre des agents, ce n'est plus possible ». Et donc, nous allons être coincés, c'est-à-dire que nous n'arriverons plus à répondre non plus aux missions directes que les directives européennes nous traduisent et nous imposent dans la vie quotidienne.
Conséquence maintenant, André Flageolet, pour le consommateur. Vous l'avez laissé entendre, sa facture va peut-être un peu baisser, mais ce sera très vraisemblablement quelque chose de l'ordre du centime par mètre cube, donc c'est indolore, si je puis dire, à court terme. En revanche, à long terme, les manques de moyens pour les agences de l'eau, elles vous semblent potentiellement particulièrement douloureuses.
Oui, alors je crois que pour le consommateur, il faut bien comprendre. À court terme, disons que ça va être stable, peut-être une légère inflexion vers la baisse. Mais en réalité, permettez-moi cette comparaison. C'est comme si on lui disait, c'est pas grave monsieur, il manque deux tuiles à votre toiture, ça va pas encore mouiller très fort. Mais en réalité, si vous voulez, nous sommes en train d'abaisser la qualité patrimoniale de toutes nos politiques pour la préservation de l'eau et de l'environnement, simplement parce que nous n'avons pas le courage de prendre les décisions nécessaires à prendre pour ou corriger les erreurs de passé, ou reconquérir de façon environnementale un certain nombre de territoires. Mais allons plus loin. Aujourd'hui, les tuyaux qui vous amènent de l'eau potable ont tous environ 80-90 ans d'existence. Pour la plupart d'entre eux, il faut les changer parce que ça fuit, ça casse, etc. Si nous ne réparons pas dans les temps l'ensemble de ces opérations, en fait, nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Même si on a légèrement baissé la facture, nous avons en fait largement appauvri le consommateur. Et un jour, il faudrait bien qu'il paye l'addition.
Et il est une notoriété publique, par ailleurs, que ces tuyaux causent déjà de lourdes pertes dans la distribution.
Dans certains secteurs, je n'ose pas vous dire que moins d'un tiers de l'eau puisée va chez le consommateur. C'est-à-dire qu'en réalité...
Donc il y a 1000 litres distribués, voilà, censément distribués et...
300-400 litres arrivent dans le pire des cas. Les meilleurs sont considérés comme faisant du rendement aux trois quarts. Ce qui n'est pas acceptable non plus. Sans compter le problème sanitaire que cela peut poser, tant pour la nature, puisque l'eau qui repart vers la nappe, en général, est chargée de pollution, tant pour le particulier qui se trouve sujet éventuellement à des problèmes de qualité d'eau et à des problèmes bactériologiques.